Vous écoutez, on lit pour vous.
Les aliments ultra-transformés, responsables de plus du tiers des décès liés aux maladies du cœur et à l'AVC au Canada. Un texte de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, paru le 25 février 2025 dans Cision. Un nouveau rapport préconise l'adoption de politiques complètes afin de réduire la consommation de ces produits. Une nouvelle recherche révèle que la consommation de boissons et d'aliments ultra-transformés contribue fortement au fardeau des maladies du cœur et de l'AVC au pays. Dirigée par Jean-Claude Moubarak, professeur à l'Université de Montréal, cette étude canadienne novatrice montre que 37 % des nouveaux cas de maladies du cœur et d'AVC et 38 % des décès sont attribuables à la consommation de ces produits, d'où les appels en faveur d'une réglementation plus stricte. Les résultats sont décourageants, déclare le professeur Moubarak. Au pays, les gens consomment énormément de boissons et d'aliments ultra-transformés, soit l'équivalent de près de la moitié de l'apport énergétique quotidien. Compte tenu du fardeau considérable des maladies du cœur et de l'AVC sur notre société, il est urgent d'adopter les politiques et de prendre les mesures qui s'imposent pour diminuer la consommation de ces produits, de même que leur visibilité dans nos environnements alimentaires. Selon cette recherche, financée par Cœur Plus AVC, plus du tiers de tous les troubles cardiovasculaires, 38 % survenus en 2019, étaient liés à la consommation de boissons et d'aliments ultra-transformés. Cette proportion comprend 96 043 nouveaux cas de maladies du cœur ou d'AVC, 17 417 décès attribuables aux maladies du cœur ou à l'AVC et 388 654 années de vie perdues ou affectées par une incapacité due à ces maladies par année. Une consommation élevée d'aliments ultra-transformés, tels que les boissons gazeuses, les friandises, les croquettes de poulet et les céréales à déjeuner sucrées, a déjà été associée à un risque accru de maladies chroniques, notamment les maladies du cœur et l'AVC. Cependant, la présente analyse est la première au pays à établir un lien entre le fardeau de ces maladies, décès et incapacités, et la consommation de boissons et d'aliments ultra-transformés. Le professeur Moubarak et son équipe se sont également demandé ce qui se passerait si la population augmentait ou réduisait son apport en boissons et aliments ultra-transformés. La bonne nouvelle est que si la consommation de boissons et d'aliments ultra-transformés diminuait de 50 %, environ 45 000 nouveaux cas de maladies du cœur et d'AVC et plus de 8 000 décès par année pourraient être évités, affirme le professeur Moubarak. Même une diminution de 20 % entraînerait des effets positifs. Elle permettrait de réduire de 17 % le fardeau des maladies du cœur et de l'AVC associés aux boissons et aliments ultra-transformés et de prévenir plus de 3 000 décès par année. À l'opposé, une augmentation de 50 % de la consommation de boissons et d'aliments ultra-transformés ferait augmenter le fardeau associé aux maladies du cœur et à l'AVC de 45 % pour les nouveaux cas, de 45 % pour les décès et de 45 % pour le nombre d'années de vie perdues ou affectées par les incapacités. Cela représente près de 3 500 décès de plus par année, ajoute le professeur Moubarak. Le constat de l'équipe de recherche est que des politiques fortes sont nécessaires pour aider la population à réduire sa consommation de boissons et d'aliments ultra-transformés. Il faut notamment interdire la publicité de ces aliments auprès des enfants, taxer les boissons sucrées et prévoir des subventions permettant de réduire le prix des légumes et des fruits. Le rapport révèle également que d'autres recherches devront être menées pour comprendre les effets sur la santé des boissons et des aliments ultra-transformés, de même que ceux des différents ingrédients qu'ils contiennent. Les recommandations du professeur Moubarak en matière de politique et de recherche, y compris celle d'interdire la publicité de boissons et d'aliments à faible valeur nutritive visant les enfants, sont les prochaines mesures réalisables que nous devons adopter pour favoriser des environnements alimentaires plus sains au pays, affirme Manuel Arango, vice-président politique et défense des intérêts à Cœur Plus AVC. Ces recommandations, ajoute M. Arango, s'appuient sur l'élan généré par des mesures récentes, notamment le bannissement des gras trans de l'offre alimentaire, l'élaboration d'un nouveau guide alimentaire recommandant d'éviter les boissons et les aliments ultra-transformés, l'étiquetage nutritionnel sur le devant des emballages et le financement d'un programme national d'alimentation en milieu scolaire. Nous exhortons le gouvernement à mettre en œuvre des politiques qui aideront la population à faire des choix plus sains afin de réduire le fardeau global des maladies du cœur et de l'AVC, déclare Doug Rout, chef de la direction de Cœur Plus AVC. C'était « Les aliments ultra-transformés responsables de plus du tiers des décès liés aux maladies du cœur et à l'AVC au Canada », un texte de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, paru le 25 février 2025 dans Cision.
Le cahier du parasport, les Paralympiens s'illustrent et pas seulement sur le terrain de jeu. Un texte paru le 24 février 2025 dans le Comité paralympique canadien. Ottawa. Les Easter Seals de Terre-Neuve et Labrador ont annoncé la nomination de la vedette du para-hockey sur glace Liam Hickey à titre de membre du conseil d'administration et du comité consultatif sur les programmes. Hickey, qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde, a concouru aux trois dernières éditions des Jeux paralympiques d'hiver. Il a également été membre de l'équipe de basketball en fauteuil roulant qui a participé aux Jeux paralympiques de 2016. Les liens de l'athlète de 26 ans avec les Easter Seals NL découlent de son amour du sport. En effet, c'est en tant que participant dans les programmes de basketball en fauteuil roulant et de para-hockey sur glace qu'a commencé le parcours sportif du natif de St. John's, Terre-Neuve et Labrador. Citation: son expertise et sa profonde compréhension de notre vision et de notre mission seront inestimables, alors que nous continuerons à développer et à renforcer les programmes qui répondent aux besoins de notre communauté. Fin de citation, affirme Mark Bradbury, chef de la direction des Easter Seals NL. Un athlète paralympique européen en voie de devenir le premier astronaute en situation de handicap à aller dans l'espace. John McFall, un médaillé paralympique de la Grande-Bretagne, a officiellement terminé sa formation avec l'Agence spatiale européenne et pourrait devenir le premier astronaute ayant un handicap à visiter la Station spatiale internationale. McFall, qui a perdu la jambe droite dans un accident de motocyclette à l'âge de 19 ans, a été médaillé de bronze au 100 mètres masculin T42 aux Jeux paralympiques de 2008. Fourny et Henry nommés meilleurs athlètes masculins dans leurs villes respectives. Le coureur en fauteuil roulant Cody Fourny, double médaillé d'or aux Paralympiques de Paris 2024, a reçu le prix du meilleur athlète masculin par les Victoria Sport Awards. Le joueur de para-hockey sur glace Tyrone Henry s'est vu décerner la même récompense par les prix sportifs d'Ottawa pour la deuxième fois en 3 ans. Fourny a gagné la médaille d'or aux 100 mètres et aux 200 mètres T51 à Paris. Au championnat du monde en mai, il a été médaillé d'argent aux 100 mètres. Henry a atteint 2 importants jalons dans sa carrière avec Équipe Canada au championnat du monde de para-hockey sur glace de 2024. Le défenseur de 31 ans a non seulement disputé son 100e match international, mais il a également remporté son 2e titre mondial, alors que le Canada, invaincu dans le tournoi, a défait les triples champions du monde et champions en titre, les États-Unis, par 2-1 dans le match pour la médaille d'or. Adam Dixon franchit un cap à la classique de Hockey Reeve. Le triple paralympien Adam Dixon, de Midland en Ontario, a inscrit le 100e but de sa carrière internationale jeudi dernier à la classique de Hockey Reeve à Boston. Il est devenu le 5e joueur à franchir le cap de 100 buts avec l'équipe nationale de para-hockey. Citation: cela fait longtemps que je fais ça, et lorsque cela fait assez longtemps qu'on fait quelque chose, on arrive à réaliser des percées ici et là. Fin de citation, a déclaré en toute modestie Dixon, 35 ans. Citation: c'est un honneur d'avoir atteint les 100 buts et de l'avoir fait avec cette équipe derrière moi. Fin de citation. Le Canada a perdu ses deux matchs contre ses grands rivaux, les États-Unis, par 4-3 et 6-2, dans le cadre de cet événement tenu en marge de la Coupe des Quatre Nations de la LNH et qui servait également à amasser des fonds pour la Fondation Christopher et Donna Reeve. C'était le cahier du parasport, les Paralympiens s'illustrent et pas seulement sur le terrain de jeu. Un texte paru le 24 février 2025 dans le Comité paralympique canadien.
Le fondateur de Mira s'éteint. Un texte de Megan Foy et Chloé Bourquin paru le 23 février 2025 dans La Presse. Le fondateur de Mira, Éric Saint-Pierre, est mort à l'âge de 77 ans le 21 février dernier. Grâce à sa fondation, des milliers de personnes vivant avec un handicap ou un trouble du spectre de l'autisme au Québec peuvent compter sur l'accompagnement d'un chien dressé pour leur offrir une meilleure qualité de vie. Mon père était un passionné des chiens et surtout un passionné des humains, souligne son fils Nicolas Saint-Pierre en entrevue avec La Presse. Depuis plus de 40 ans, la Fondation Mira dresse des chiens pour assister des personnes vivantes avec des déficiences visuelles ou motrices, ainsi que pour des jeunes présentant un trouble du spectre de l'autisme, TSA. Elle en remet gratuitement environ 200 par année. Passionné dès l'enfance, Éric Saint-Pierre a développé une passion pour les chiens dès son plus jeune âge. Il grandit dans une ferme entourée de chiens. Mike, Tilou, Coco ou encore Karma ont ainsi accompagné ses péripéties d'enfance. Jeune homme passionné de musique, il chante et gratte la guitare. Il enregistre notamment le succès Nathalie et est sacré révélation jeunesse d'aujourd'hui en 1967. Un peu plus tard, il se tourne vers le dressage de chiens, notamment pour la garde, la sécurité ou la recherche de stupéfiants. Un jour, il se rend compte que les chiens guides pour les personnes non-voyantes, à l'époque, étaient tous élevés aux États-Unis. À leur arrivée ici, la langue et les hivers québécois devenaient un frein pour ces animaux, ce qui compliquait grandement la tâche des personnes qu'ils étaient censés assister. C'est de là qu'est née son idée de fonder Mira, un projet qui voit le jour en 1981 avec l'aide de sa conjointe de l'époque, Joanne Allais. Les poches vides, mais le cœur plein, écrit-il dans sa biographie, il se lance alors à la recherche de financement pour faire croître la Fondation Mira. Il enchaîne les campagnes et autres activités de financement, comme des expéditions en traîneau à chiens. L'organisme grandit, conquérant le cœur du public. L'organisme grandit et se diversifie. Dès 1993, la Fondation étend sa mission et commence à former des chiens d'assistance pour des personnes ayant un handicap physique, ainsi que pour des enfants atteints d'autisme. Philippe Anger, président du conseil d'administration, raconte que des familles frappaient parfois à la porte de la Fondation Mira, déboussolées, expliquant à Éric Saint-Pierre qu'elles étaient à court de solutions pour aider leur enfant autiste qui ne dormait pas. Et quand le chien arrivait à la maison, ça calmait tout le monde dormait. Puis les enfants revenaient avec les parents à la Fondation. « C'était tellement beau à voir », explique-t-il, ému, en entrevue avec La Presse. « Il aimait tellement les chiens. Il a donné sa vie aux autres », ajoute-t-il. « C'est un ange gardien qui nous a quittés », abonde Yves Gougou, un ami de longue date et vice-président du conseil d'administration. Il raconte qu'Éric Saint-Pierre rencontrait souvent les personnes au moment où elles étaient au plus bas dans leur vie, pour les aider à se reconstruire en les jumelant avec un chien qu'il avait formé. C'était aussi un très grand psychologue. Il avait un vrai don d'écoute et d'observation, soutient-il. Autour du fils. Depuis 2015, c'est son fils, Nicolas, qui a repris le flambeau. En 2019, la Fondation a lancé un projet pilote pour aider des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Le projet a néanmoins été mis en veilleuse à cause de la pandémie. Mais d'autres sont en cours, notamment pour mieux comprendre le comportement des chiens, indique Nicolas Saint-Pierre. On veut continuer toujours à s'améliorer, à être capable de bien servir les personnes qui bénéficient des chiens, explique-t-il. Depuis sa création, la Fondation Mira a remis gratuitement plus de 4 000 chiens. Chacun représente un investissement de plus de 40 000 $ pour l'organisme, qui se finance uniquement grâce aux dons du grand public et du secteur privé. C'était un entrepreneur hors norme, un artiste. Il a eu une vie super remplie. Il a changé le bien-être de milliers de gens au Québec, souligne Nicolas Saint-Pierre. C'est à notre tour de lui dire salut et un gros merci. C'était le fondateur de Mira s'éteint, un texte de Mégane Foy et Chloé Bourquin paru le 23 février 2025 dans La Presse.
Québec impose un plafond aux établissements. Un texte de Fanny Lévesque paru le 26 février 2025 dans La Presse. Le réseau de l'enseignement supérieur devra se passer de milliers d'étudiants étrangers. Québec serre la vis, en particulier aux collèges privés, et impose des plafonds aux cégeps et aux universités. Le gouvernement Legault passe à l'acte. Après avoir légiféré pour s'attribuer le pouvoir de limiter le nombre d'étudiants étrangers, le gouvernement Legault passe à l'acte. Il réduit de 20% le nombre de demandes pouvant être faites par des étudiants étrangers voulant fréquenter un établissement d'enseignement québécois. Plus particulièrement, Québec agit en limitant le nombre de certificats d'acceptation du Québec, CAQ, un document essentiel à l'obtention du permis d'études délivré par Ottawa. Le gouvernement a attribué 156 647 certificats en 2024 et réduira ce nombre à 124 760 en 2025. Chaque établissement se verra donc attribuer un quota à respecter. Une nuance est importante. Le nombre de certificats n'est pas représentatif du nombre d'étudiants étrangers au Québec puisque le certificat est accordé pour la durée d'une formation. Les collèges privés écopent. La baisse est concentrée dans les collèges et établissements d'enseignement privé, là où vraiment il va y avoir une réduction substantielle, c'est dans les AEC, attestations d'études collégiales, explique la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Derry. Québec cible les AEC et les formations de courte durée qui, déplore-t-elle, servent de voie rapide pour obtenir la résidence permanente. On parle de formation en administration, en courtage immobilier, en planification d'événements, en design, par exemple. Il y a plein de programmes d'AEC très populaires où il y a eu une croissance substantielle du nombre d'étudiants étrangers, constate la ministre. Est-ce qu'on a besoin de tous ces étudiants étrangers dans des programmes d'attestation d'études collégiales? La réponse, c'est non. Selon le décret, le Collège Ellis, Trois-Rivières, le Collège Universel, Montréal, le Collège La Salle, Montréal, et l'Institut Técart, Montréal, sont les établissements privés qui accueillent, et de loin, le plus d'étudiants étrangers. Québec serre également la vis aux établissements d'enseignement qui offrent des formations professionnelles et, comme cela a été démontré dans les médias, qui ont développé des modèles d'affaires autour du recrutement à l'étranger. Cégep, des programmes protégés. Québec protège les AEC au collégial et la formation professionnelle qui vise à former des travailleurs dans trois domaines: santé, services sociaux et éducation. Des programmes nichés en région ou dans des secteurs stratégiques comme l'aviation ne subiront pas non plus de diminution, assure Mme Derry. Les cohortes en région vont toutes démarrer, assure-t-elle. En revanche, le nombre d'étudiants étrangers dans l'ensemble des programmes d'études techniques, DEC et préuniversitaires sera plafonné. Cela veut dire que Québec attribuera pour 2025-2026 le même nombre de certificats par établissement qu'en 2024. D'ailleurs, le décret publié mercredi est d'une durée d'un an seulement. Le gouvernement Legault veut prendre en considération sa planification pluriannuelle de l'immigration qui inclura pour la première fois l'immigration temporaire pour définir les seuils pour les trois prochaines années dans le milieu de l'enseignement. La première étape, c'est de freiner cette croissance qu'on a eue au cours des dernières années pour toute la pression que ça crée sur les services publics, sur le logement des étudiants, dans mon cas, illustre la ministre. Le nombre d'étudiants étrangers ayant un permis d'études valide a explosé au Québec de 2014 à 2023, passant de 50 000 à 120 000, une hausse de 140 % selon le gouvernement. Coup de frein dans les universités. Comme pour les cégeps, Québec donne un coup de frein dans le nombre d'étudiants étrangers admis dans les universités en plafonnant la délivrance des certificats au niveau de 2024. Or, il s'agit d'une année où le nombre d'admissions a connu une légère baisse, notamment en raison des actions du gouvernement fédéral, qui a plafonné pour une période de 2 ans le nombre d'étudiants étrangers admis au pays. Cette mesure a déjà un impact, reconnaît Mme Derry. Donc, dans le réseau universitaire, il n'y aura pas de réduction comme telle. On vient stabiliser le nombre de CAQ par rapport à 2024. Selon la ministre, il s'agit d'une mesure responsable, équilibrée et balancée. Les cégeps et les universités avaient rejeté le projet de loi du ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge. Les universités de Montréal, de Sherbrooke, McGill et Laval avaient même demandé d'être soustraites à la nouvelle loi. Pour les années à venir, tout est sur la table, a prévenu la ministre mardi. Elle invite les universités et les cégeps à participer aux consultations sur la planification de l'immigration qui doit avoir lieu ce printemps. Selon elle, le décret va encourager et même pousser les établissements universitaires à mieux recruter des étudiants pour être certains qu'ils vont vraiment venir au Québec. Mme Derry estime que leur autonomie institutionnelle est conservée puisque les établissements vont gérer la distribution de leurs quotas. C'était « Québec impose un plafond aux établissements », un texte de Fanny Lévesque, paru le 26 février 2025 dans La Presse.
Une activité promue l'accès aux soins pour les personnes avec une déficience ou un TSA. Un texte de Mireille Chaillé, paru le 26 février 2025 dans Ici Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le patron de Jonquière a été l'hôte mercredi d'une activité bien particulière organisée par Olympiques Spéciaux Québec. L'organisation, dont la mission première est d'enrichir par le sport la vie des gens qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. À l'occasion, des élèves provenant d'écoles des centres de services scolaires de la Jonquière et des rives du Saguenay qui ont des besoins particuliers ont pu recevoir une évaluation physique. Celle-ci était menée par des étudiants de différents programmes en santé des cégeps de Jonquière et de Chicoutimi et de l'Université du Québec à Chicoutimi, UQAC. C'était important d'aider les futurs professionnels de la santé et de l'éducation à avoir une expérience significative, mais également d'offrir à une clientèle qui en a besoin une expérience de prévention et de promotion de la santé significative en même temps, donc une relation gagnant-gagnant, fait valoir le directeur des communautés en santé d'Olympiques spéciaux Québec, Tristan Delmas. C'était la deuxième édition du Grand Rendez-vous unifié de Saguenay. Il a réuni plus de 300 personnes cette année. C'est vraiment le rêve d'une communauté en santé et on veut vraiment inspirer le reste du Québec avec cette manière de faire parce que cette communauté DITSA, donc vivant avec une déficience intellectuelle ou autiste, elle est partout au Québec. Des établissements d'éducation supérieure, il y en a partout au Québec et c'est une manière de faire une synergie pour créer un impact social fort et important, ajoute Tristan Delmas. Pour la plupart des étudiants en soins, en physiothérapie, en hygiène dentaire ou encore en kinésiologie, il s'agissait d'un premier contact avec cette clientèle. C'est quand même enrichissant parce que ce n'est pas forcément une clientèle à qui, à première vue, on a affaire dans notre milieu clinique à l'école. Ellipse. Ça nous permet d'adapter nos stratégies, explique Anna Fontaine. Ça nous met dans le bain parce qu'on apprend théoriquement comment ça va se passer, mais quand on le fait pour vrai, on voit comment ça se passe. Je trouve que c'est intéressant pour nous, puis c'est une belle opportunité de pouvoir le faire pendant qu'on est à l'école, puis qu'on est aussi bien encadré, indique pour sa part Amélie Boily, une étudiante en physiothérapie de l'UQAC. Matchs amicaux. En plus des analyses et des exercices, des matchs amicaux de boccia, un sport qui ressemble à la pétanque, ont aussi été disputés entre les évaluateurs et leurs patients. C'était une manière de briser la glace, de tisser des liens et surtout de valoriser le vivre ensemble. On a pu jouer avec eux puis on a parlé avec eux. C'était plus le fun qu'être juste en entretien, en évaluation avec eux. On crée vraiment un premier contact dans un cadre sportif, c'est plus facile aussi pour tout le monde, soutient l'étudiante Anna Fontaine. Pour les patients, c'était aussi une occasion de s'amuser tout en apprenant. C'est une clientèle auprès de laquelle il faut développer le pouvoir d'agir, son autodétermination pour qu'elle ait du pouvoir sur sa santé, pour comprendre cette santé-là, mentionne Tristan Delmas d'Olympiques spéciaux Québec. Le prochain grand rendez-vous unifié aura lieu à Montréal le 22 mars. L'organisation aimerait étendre l'activité dans toutes les régions du Québec dans les prochaines années. C'était une activité promue l'accès aux soins pour les personnes avec une déficience ou un TSA, un texte de Mireille Chaillé, paru le 26 février 2025 dans Ici Saguenay-Lac-Saint-Jean.